François Skuyten, Benoît Peters, bonjour. Donc, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie, fait qu'à ce moment, de votre livre illustré, comme vous le dites, donc Le Retour du Capitaine Nemo. Cet ouvrage fait partie d'une collection ambitieuse et atypique, Les Cités Obscures. Né en 82, le premier album c'était Les Murailles de Samaris et le dernier en date, Souvenir de l'éternel présent, il y a 14 ans. Ça en fait quand même des années, là. Vous n'avez plus de flash entre-temps ?
Il s'est passé des choses, quand même. On a fait chacun des livres de notre côté. On en a fait aussi ensemble. Oui, Bruxelles, un rêve capital, ou Revoir Paris. Mais ça ne s'inscrivait pas dans le monde des cités obscures, qui est un monde assez particulier, un peu décalé par rapport au nôtre, même si les deux mondes entretiennent des rapports. Et là, pour Le Retour du Capitaine Nemo, ça s'est imposé. Et voilà, ce livre est né de, je dirais, de manière très naturelle. Il s'est développé de manière très, très, très harmonieuse autour de notre admiration commune pour Jules Verne et d'un grand projet de sculpture que François Coe réalise en France à Amiens.
C'était finalement justement la ville d'Amiens qui était ce flash, non?
Oui, c'est le point de départ. Déjà, j'avais réalisé avec les bleues lumières la scénographie de la maison Jules Verne, qui est une maison assez touchante, assez troublante, puisque c'est quand même là où il a écrit une grande partie de son œuvre. Et puis, c'est aussi l'endroit où on voit son petit espace d'écriture, avec le lit à l'arrière, et puis cette fenêtre qui donne sur le chemin de fer, sur les trains qui arrivent et qui sortent d'Amiens. Et il y avait là une intimité, ou non, vraiment dans l'intimité de cet écrivain. Et ça a été aussi une de nos grandes sources d'inspiration pour ce livre. C'était non seulement l'œuvre en général, mais aussi ce lieu.
Et puis bon, il y avait eu une commande de la sculpture.
Évidemment, le point de départ, j'ai un long compagnonnage avec Amiens, mais là, en l'occurrence, ce qui a déclenché le projet du retour du Capitaine Nemo, c'est le désir de la ville d'avoir un objet qui incarne un petit peu cette œuvre. Parce qu'il manque un peu d'incarnation de l'imaginaire Jules Verne.
Famille Note et Poule.
Ah oui, voilà. Et donc, l'idée était de créer à la sortie de la gare un objet qui permette de faire référence à cette œuvre.
En fait, ça a évolué. Un objet d'une certaine taille.
Hein. Ah oui, en bronze, 7 mètres de haut, 10 mètres de large, 12 tonnes. Un objet qui, normalement.
Avec Pierre Mater.
Voilà, qui était fait qui est en train d'être réalisé dans un atelier de fonderie, enfin une fonderie très importante qui permet de réaliser cette œuvre qui sera composée d'une centaine de pièces qui après vont être
assortions des 120 ans d'amour.
Voilà. Donc, et qui passera par Bruxelles avant d'aller à Amiens,
paraît-il, Louise. C'est incroyable, vous voyez. Déplacer et faire circuler l'œuvre.
Oui, mais un peu comme dans le livre d'ailleurs. C'est une œuvre qui va voyager. Oui, c'est possible parce qu'il ne sera pas encore définitivement, les pièces ne seront pas soudées définitivement, donc on va donner la possibilité, devant le palais de justice, en décembre de l'année prochaine, de la voir, elle surgira des pavés de la place Poulart.
Incroyable.
Oui, pendant quelques mois. Et ça, c'est un petit peu tout ça qui motive qu'on ait eu envie de raconter l'histoire. D'où vient ce Nautipoulpe? De quelle région lointaine et qui habite cet engin un peu curieux, hybride, entre la machine et un poulpe géant.
Finalement, Benoît, c'est incroyable. Vous voyez un petit dessin chez une esquisse chez François et vous dites, oh, après tout, mais tiens, on est parti.
Quelques dessins déjà et quelques dessins qui me séduisent par leur liberté, leur technique, leur précision. Ce sont des dessins remplis de hachures extrêmement finies. Et très vite, bon, puisqu'on partage depuis longtemps l'amour de l'œuvre de Jules Verne et l'intérêt pour le personnage de Jules Verne aussi. Non, mais François, c'est pas juste quelques dessins pour faire des posters, etc. Ça peut vraiment être un point de départ d'une histoire. Alors, je commence, moi, à réfléchir. Les grandes images sont très descriptives. Je ne voulais pas être redondant et dire ce qu'il y avait dans les images, mais faire parler leur occupant naturel, le capitaine Nemo. Capitaine Nemo, qu'on avait cru mort à la fin de 20 milieux sous les mers. On a quasi vu mourir dans l'île mystérieuse. Et donc, s'il était mort une première fois, qu'il était revenu à la vie, pourquoi pas encore une fois. Et donc là, on imagine le capitaine Nemo sortant d'un long coma, d'un long engourdissement, revenant peu à peu à lui-même et se rendant compte qu'il est à bord d'un engin qu'il ne contrôle pas. Parce que lui, il était un homme puissant et rude, vengeur, qui commandait ce Nautilus, cet extraordinaire sous-marin. Là, il est à bord d'un engin qu'il ne commande pas et qui va l'entraîner dans son singulier voyage à travers le monde des cités obscures.
Il y a finalement la symbolique de la naissance ou de la renaissance, finalement, avec la sortie de cette machine infernale, non ?
Oui, oui, tout à fait. Je suis persuadé que les psychanalystes auront projeté sur ce livre, comme sur certains autres de nos albums, toutes sortes d'interprétations. Mais nous, quand on raconte une histoire, on se laisse entraîner, on se laisse porter. Moi, je me laisse d'abord porter par les dessins de François dans ce cas précis. Et puis, François, à partir de mon texte, réagit, ajoute, on assemble les choses sans toujours savoir exactement.
Vous avez
Vincent, le savez. Mais le sens que ça peut véhiculer, c'est parfois quand le livre est là et qu'on le relit ou qu'on voit les réactions des premières lectrices, des premiers lecteurs, qu'on se dit « Ah oui,
en effet,
c'est là qu'il peut s'agir. »
Et vous savez, quand vous avez commencé votre interview en disant 14 ans après, moi, c'est marrant, je n'ai jamais pensé ça. Et c'est vous qui nous révélez cette idée de 14 ans après, parce qu'on n'a jamais arrêté de travailler, Benoît et moi, et que les fêtes obscures fait partie tellement intégrante de notre univers. Revoir Paris n'est pas très loin. Bruxelles, une ville capitale.
Un rêve capital.
Un rêve capital, excusez-moi. Ce n'est pas très loin non plus, puisque c'est quand même... les dessins jouent avec l'imaginaire de cette ville. Donc, je ne vois pas de rupture, et je ne vois pas non plus le fait que... Une cité obscure, oui, c'est certain. À un moment donné, il y a un certain nombre d'ingrédients qui font qu'on la reconnaît comme telle.
En lisant votre ouvrage, j'ai été assez perturbé. J'ai eu l'impression de me trouver devant une sorte de poupée russe ou d'un secrétaire avec des tiroirs secrets.
Oui.
Par le fait que votre assemblage, comment avez-vous conçu l'album et justement les différentes étapes, le texte d'un côté, l'aventure, le pari qui est là, le carnet de bord.
Oui, c'est vrai qu'il y a une composition qui se fait petit à petit. Le livre comporte deux parties. La partie principale qui est vraiment le retour du capitaine Nemo, donc une histoire essentiellement noir et blanc, mais qui réserve quand même quelques surprises vers la fin. Et puis une deuxième partie autour de Jules Verne, où on rassemble au fond des éléments liés à notre fascination pour cette œuvre, et notamment une série de dessins que François avait réalisés il y a pas mal d'années pour une édition tout à fait spéciale du roman retrouvé de Jules Verne, une édition luxueuse mais rapidement introuvable, le roman Paris au XXe siècle, qui est un roman dont l'histoire est tout à fait fascinante, puisque c'était le deuxième roman de Jules Verne, juste après Cinq semaines en ballon, mais que l'éditeur, Hetzel, qui avait fait le succès de Cinq semaines en ballon, n'était pas du tout convaincu par ce deuxième roman. Il a persuadé Jules Verne de le mettre de côté, et le livre a été enfermé dans un coffre, retrouvé quasi par hasard dans les années 1990. On n'avait donc un paradoxe, puisqu'on avait un livre de 1860 décrivant Paris en 1960, retrouvé au début des années 1990 et illustré par François dans un exercice de rétro-anticipation.
Quel est l'impact du Pierre-Jules par rapport à l'œuvre de Verne et peut-être aussi sur vous?
Ah ben, c'est ce qui nous passionne, c'est le rapport entre l'éditeur et l'auteur. Ça, c'est vraiment quelque chose.
Il a été quand même déterminant dans le parcours de Jules Verne.
Il a été déterminant dans le parcours, mais pour nous surtout dans la façon dont ils ont configuré ensemble l'objet, le livre, et qui va avoir cette espèce de capacité à séduire, mais à le monde entier, parce qu'il y a quand même un rayonnement de son œuvre qui est étonnante. Et ils ont vraiment réussi à trouver dans cet équilibre texte et image, avec les légendes en dessous des dessins, et la qualité des gravures, le plat, la couverture. Ils ont trouvé pour moi sans doute un des objets les plus parfaits du domaine de l'édition. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une fascination qui émane de ces livres et qui fait qu'il y a tellement de collectionneurs à travers le monde et qu'encore aujourd'hui, malgré tout ce que la technologie nous amène, il y a quelque chose dans ces livres qui perdure, dans le plaisir qu'on a à les toucher, à les regarder. Et c'est un petit peu ça aussi qui nous a poussé. Mais oui, qu'on a cherché, retrouver le mystère d'Ando, le mystère de ces gravures, de ces dessins, le rapport qu'on avait à plonger, le jeu qu'on avait entre ces images et ce texte. Il y avait là quelque chose d'étonnant, et c'est vraiment le résultat de la créativité de deux hommes qui se sont entendus, et qui ont compris ce qu'ils pouvaient s'apporter l'un l'autre.
Pas de Jules Verne sans Hetzel, puisque jusqu'à l'âge de 35 ans, il avait beaucoup de mal, il doutait de lui, mais pas beaucoup de souvenirs de Hetzel s'il n'y avait pas eu Jules Verne. Et donc, c'est une association assez étrange. Au début, un rapport un peu père-fils. Hein, Hetzel est plus âgé, autoritaire, mais enfin, peu à peu, Jules Verne prend cette marque, s'affirmer avec le succès qui grandit. Et ils auront un dialogue autour du personnage du capitaine Nemo qui est tout à fait révélateur. Parce que dans un premier temps, Hetzel n'aime pas le personnage du capitaine Nemo. C'est un personnage trop sombre, c'est un personnage trop brutal qui ne correspond pas aux volontés éducatives de Hetzel. Mais Jules Verne, cette fois, tient bon. Il l'impose. Et finalement, Hetzel s'y attache, se rend compte que c'est un personnage puissant et se demandera dans une lettre tardive à Jules Verne, j'étais tout content quand j'ai retrouvé cette lettre, je suis tombé là-dessus, ça vaut vraiment le coup de relire à tout. Et il dit, qui sait si nous n'avons pas eu tort de faire mourir le capitaine Nemo, si nous n'aurions pas dû en faire un personnage immortel. Et donc c'était comme l'autorisation qui nous était donnée, lointainement, par Jules Verne et par Hetzel, de continuer, de prolonger, de donner une nouvelle vie. Il ne s'agissait pas d'adapter, il ne s'agissait pas de répéter, il s'agissait de trouver une manière contemporaine de rendre hommage. Et puis on partage évidemment avec Hetzel et Verne le goût de l'objet fini. C'est ce qu'on a essayé de faire dans notre propre livre.
Souvent on se dit, on n'aimerait pas qu'on nous fasse des choses que nous faisons. Nous ne voudrions pas faire ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. C'est-à-dire que les hommages, s'il y a des gens qui un jour se perdent à vouloir avoir un intérêt à perdurer à une partie de notre travail, on préfère
ça peut d'abord.
Très prudemment, parce que
son jeune fille.
Oui, voilà.
Il n'est pas encore très sûr de lui.
J'espère qu'ils ne nous copieront pas. J'espère qu'ils ne chercheront pas à être dans une espèce de facsimilé, mais que par contre, s'ils ont envie de tirer un fil, de prendre un élément et de se l'approprier, ça nous ferait bien.
Le retour d'Urbicante.
Oui.
Le retour de Giovanni Battista. Mais c'est vrai qu'il y a une manière de prolonger une œuvre sans la recopier, en acceptant qu'on est dans un autre monde, une autre référence, mais en même temps que les grands mythes de Jules Verne peuvent encore nous parler et être consistants et être significatifs. Et ce livre est évidemment, par-delà l'hommage, aussi une invitation à se replonger dans ces histoires qui parfois sont connues de façon indirecte, parodies ou par des adaptations, mais qui gardent une grande force.
Nemo, c'est un méchant, finalement. Comme vous dites, ce n'est pas Gandhi.
Et s'il est indien aussi. C'est un prince indien persécuté par les Anglais, mais il n'a pas adopté...
C'est pour sa première vie, hein, c'était un prince Dakar.
Voilà, mais il n'a pas adopté la non-violence.
Alors, il aurait très bien pu finalement être un méchant de chez James Bond. Je me suis d'ailleurs demandé si le Karl Stromberg de l'espion qui m'aimait n'était pas un petit peu inspiré de Verne.
Bon, écoutez, en tout cas, il est inspirant. Alan Moore s'en est emparé aussi, donc ça prouve bien que c'est un personnage extrêmement puissant et qui continuera sans doute à inspirer des auteurs. C'est vrai que il faut une certaine audace pour le prendre, mais ici, en l'occurrence, on joue avec ce personnage, on le découvre comme s'il était totalement, comme s'il venait d'un lointain passé, qu'il revient à la vie d'une façon étrange. C'est un animal un peu sauvage, comme ça, hirsute, la chevelure infinie, et tout doucement va retrouver et sa mémoire et un physique un petit peu acceptable. Et là, on va découvrir qu'il n'est pas seulement que le capitaine.
À suivre. Alors, ça fait plus de 50 ans que vous vous connaissez, avec de multiples expériences, et notamment dans le cinéma. Et vous avez côtoyé des univers qui m'interpellent fatalement pour des personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer. savoir notre regretté Raoul Servet, puisque vous avez travaillé sur Taxandrien,
ouais.
Et Jaco. Vous, François, c'était déjà du stade de Toto le héros, hein. Et puis vous deux sur Mister Nobody. C'est une famille. C'est vous et Jaco, Raoul.
Alors.
Et on peut rajouter juste Jacquim pour Gwendoline aussi,
Gardaman. Et Pierre Drouot, on connaît bien, qui a été à la Trait d'Union, Jacob Anderman et Aulcer.
Oui, 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 et d'autres réalisateurs avec qui j'ai failli travailler ou presque. Enfin, oui, le cinéma, c'est pas mal de rencontres un peu ratées. Enfin, on a.
Et parfois plus réussi.
Oui,
avec Jacob, tu as assez.
Ah oui, oui.
Bon, ce qu'il lui a fait pour Mister Nobody.
Avec Raoul, c'est sur un film dont il n'était pas tout à fait satisfait, qui est en fait un magnifique paquebot échoué. C'est-à-dire un rêve de film formidable avec des moyens et sans doute.
Des bouts de ficelle, comme il dit.
Oui, des bouts de ficelle, mais aussi la collaboration d'Anna Aubryet, de Il y avait là une configuration qui aurait pu donner sans doute un très beau film. Et puis voilà, l'histoire a fait sur des années. J'ai accompagné Raoul pendant des années dans un moment à des moments très difficiles où il était extrêmement déprimé de voir que ce projet si important pour lui, c'était son premier long métrage. Il n'allait pas ressembler à ce qu'il espérait. Donc ça a été une expérience douloureuse, mais par contre, la relation que j'ai eue avec lui était absolument passionnante et extrêmement enrichissante. J'ai beaucoup appris avec lui. J'ai beaucoup appris tout ce que c'est que les racines belges que nous avions en commun, ce fantastique, cette dimension un peu surréaliste, cette étrangeté que Raoul aimait tant travailler. Et donc, oui, ça a été une très belle aventure. Avec Jaco, c'est tout à fait autre chose. Jaco, c'est exactement ce qu'il veut. Et là, le travail, c'est plutôt d'arriver à essayer d'entrer dans un mécanique, dans son horlogerie extrêmement sophistiquée qu'il a dans la tête. Et c'est un réel plaisir. Et puis, Jaco est un ami, comme Raoul d'ailleurs. Mais le plaisir, c'est d'être avec eux. Faire un film, en définitive, c'est presque un détail. On est heureux d'être ensemble et de rêver l'histoire ensemble. Évidemment, on pense au film. Mais moi, ce que je me souviens, c'est surtout les séances de travail et le plaisir d'imaginer des scènes ensemble.
Alors, selon vous, notre imagination a toujours un coup d'avance ou au contraire, est-ce qu'on se fait rattraper par la réalité, par les créatifs, les inventeurs, les ingénieurs, les architectes, les physiciens, les mathématiciens? Je pense à ce pari du 20e où finalement on se rend compte que... On y est, sans
vrai. Oui, c'est toujours un mélange entre peut-être le savoir de notre temps, on essaie d'aller fuser les choses, la part du rêve, la part de l'imaginaire pur, et par instant des prémonitions. Je me souviens, par exemple, que dans notre premier album, Les Befailles de Tsaparis, on avait une ville façade, une ville factice qui tourne autour du personnage. Or, le façadisme s'est développé de manière extraordinaire à Bruxelles, de façon plutôt triste, dans les années qui ont suivi, puis dans d'autres villes que Bruxelles. Donc, des immeubles qu'on vidait totalement, auxquels on ôtait leur sens, mais dont on conservait un morceau de la façade, presque à la façon de Magritte. Et plusieurs fois, pour illustrer ce phénomène, on a vu la presse reprendre des images. Or, ce n'était pas directement une prémonition. Mais disons que c'est une façon d'être en état de sensibilité. Et je crois que François, comme moi, et c'est peut-être un point commun avec Jules Verne, toute promotion gardée, on n'est pas intéressé par un imaginaire tout à fait détaché du réel, par un imaginaire en apesanteur. Il faut qu'il y ait une assise qui finalement permet au lecteur, à la lectrice, de trouver un point d'appui pour entrer dans cet univers. L'imaginaire des autres pourrait nous laisser indifférents. Vous pouvez imaginer les mondes les plus extravagants, mais si vous n'avez pas une porte d'entrée, vous allez juste dire « Ah oui, c'est une belle image, ah oui, c'est une belle invention. » Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on se sente impliqué, que le lecteur, comme le personnage, dit « Qu'est-ce que moi je ferais dans cette situation ?» Et ça, c'est un exercice, je crois, tout à fait particulier, qui suppose d'ailleurs que l'œuvre reste vivante. Nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a 40 ans, le réel autour de nous n'est plus les mêmes, les références architecturales et politiques ne sont plus les mêmes. Et si on faisait les mêmes livres qu'il y a 40 ans, je pense qu'ils n'auraient aucun sens.
Verne aimait la mer, il avait même un bateau. Et vous aimez l'eau?
Oui, oui, moi, j'aime beaucoup la dessiner, surtout. J'adore dessiner la mer. J'ai un bonheur, il fait de plus en plus grand, c'est assez étrange. Comme j'aime de plus en plus dessiner les animaux, d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'y a pas...
C'est grâce à votre chien?
Oui, le chien, le notre poulpe, Animalia, au Train World. C'est sûr que ça nous éloigne un peu des villes austères qui ont donné un petit peu la caractéristique de notre univers. C'est curieux, mais avec l'âge, je prends un beaucoup plus grand plaisir à dessiner du poil, des plumes, des écailles, et à dessiner la montagne, la mer. Ça se voit d'ailleurs dans Le Retour du Capitaine Nemo, que j'ai du plaisir à faire la mer, parce que c'est un bonheur. Je suis dans les vagues, je suis dans la fraîcheur de la Méditerranée, là, et c'est comment dire, le dessin doit être traversé par des émotions et par du désir. C'est ce qui permet qu'il reste vivant. Et donc, c'est vrai qu'ici, je me suis un peu laissé aller à des désirs de dessinateur. Parce que c'est vrai que sinon, la bande dessinée est extrêmement contraignante. C'est une machine à nous mettre dans des cases. Et
c'est le cas de le dire.
Oui.
Et au figuré.
Et la case architecture a été pour nous vraiment très importante et très dynamique au début des Cités Obscures. Mais peu à peu, le travail s'est déplacé. Et parfois, on est... J'ai aidé de voir l'écriteau, architecte de la BD, accroché au cou de François, comme si, même dans des albums comme celui-ci où la nature a une grande place, on allait toujours chercher les quelques images architecturales. Au fond, c'est beaucoup plus l'univers, le décor, ce qu'on considère souvent comme l'arrière-plan, mais qui chez nous peut devenir l'avant-plan. C'est ça qui est au cœur. Alors évidemment, le terme des cités obscures contribue au malentendu. Cité obscure donne le sentiment d'un monde fait de villes. Mais dans cet album, et les cartes le monde, on s'attache beaucoup à tous les paysages qui se trouvent entre les villes. Et je vois que cette présence de la nature, cette présence des forces primitives, des éléments, pas seulement l'eau, est au cœur aussi de l'œuvre de Jules Verne. Et c'est une des choses qui la rend si présente, c'est que c'est une œuvre qui n'est pas juste à l'échelle humaine, psychologique, réaliste. C'est une œuvre qui donne le sentiment d'aller puiser par-delà la science de son temps dans un grand imaginaire de l'humanité. C'est quelque chose qui est là depuis le premier inventeur de Nemo. C'est Homère. C'est l'Odyssée.
Une bonne sœur.
Et ce n'est pas par hasard que le nouveau chien de François s'appelle Ulysse.
François Benoît, un grand merci. En tant qu'on rappelle, Le Retour du Capitaine Nemo, paru aux éditions Castelmont. Merci.
Merci à toi.
Merci.